J'étais convaincue qu'Eichmann était un bouffon. J'ai lu son interrogatoire de police, les 3600 pages. Je l'ai étudié de très près. Eichmann était très intelligent, mais il avait une forme de bêtise. Et c'est cette bêtise qui paraît scandaleuse. Voilà ce que je voulais dire quand j'ai parlé de banalité. Il n'y a aucune profondeur, rien de démoniaque. Simplement le refus complet de se mettre à la place des autres.
C'était un bouffon, les mots de Hannah Arendt en ouverture de cette grande table des idées. Aujourd'hui, peut-on écrire une généalogie du mal? Avec nous, le réalisateur et écrivain allemand Chris Krauss, qui s'y essaye dans La fabrique des salauds, qui paraît chez Belfond. Un roman traduit par Rose Labourie, un roman vertigineux qui fait passer un ancien nazi au service du KGB, de la CIA ou encore du Mossad. Pour l'écrire, l'auteur a puisé, paraît-il, dans son histoire familiale, en repartant de la figure de son grand-père et en suivant les mots de Racine, qu'il met en exergue de ce roman, il n'est point de secret que le temps ne révèle. Sur un peu moins de 1000 pages, il raconte surtout les rouages de la machine et une époque, le XXe siècle, dont nous sommes aujourd'hui les enfants. Bonjour Chris Krauss.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Bonjour à votre voix française, Louise Degenhardt. Bonjour.
Bonjour.
Votre grand-père était membre des Einsatzgruppen, vous l'avez raconté, ces commandos nazis, Chris Krauss. Quand vous découvrez ce passé, quel processus se met en marche dans votre tête? Qu'est-ce que ça déclenche en vous comme envie d'écrivain?
C'est quelque chose de très compliqué, c'est difficile de le dire rapidement, mais je vais vous dire, quand j'ai commencé en 2001, parce que c'est en 2001 que j'ai compris que mon grand-père faisait partie des Einsatzgruppen, c'était un véritable choc, bien évidemment. Et ensuite, ça a déclenché différentes émotions, parce qu'évidemment, il faut du temps pour comprendre. C'était quelqu'un que je croyais connaître, mais ce n'était pas du tout la même personne. Ce n'était pas celui que moi et le reste de la famille et de l'environnement pensaient connaître.
C'était un grand-père, comment ?
Je pense que
chaque enfant trouve son grand-père parfaitement normal, parce que le grand-père, c'est quelqu'un qui va vers les enfants avec tout cet amour traditionnel. C'était pareil pour le mien. C'était pas quelqu'un de chaleureux, mais quelqu'un de lumineux, si vous voulez. Il était capable de montrer son charisme à travers son humour, à travers les histoires qu'il racontait, à travers son expression artistique. Et notre relation était vraiment très proche parce que j'étais le plus âgé de ses petits-enfants.
La question de la mémoire, elle est essentielle et elle est centrale en Allemagne, comme elle l'est aussi pour une génération de Français. Comment ça s'est passé dans votre famille ? Qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'il se disait sur la manière dont vos parents, grands-parents avaient traversé cette période qui était la guerre, qui était l'Allemagne d'Adolf Hitler?
Chez nous, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'on n'en parlait pas du tout. Et quand on en parlait, eh bien, c'était toujours de manière idyllique, si vous voulez, une idylle qu'on a vécue à un moment donné. Ma famille vient de la région balte, des pays baltes, du Balticum, mais des Allemands de l'étranger, on parlait des anecdotes, on parlait de la beauté de cette culture, de l'époque. Et au maximum, je pense, on parlait de la perte de ce paradis perdu. Mais alors comment cette perte s'est opérée et quelle douleur ça a entraîné et tous ces aspects n'étaient pas mentionnés du tout. Et je pense que ma famille ne fait pas exception. Il y avait vraiment une chape de plomb. C'était vraiment quelque chose dont on ne parlait pas de ce qui se, de ce que faisait cette génération des grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors avant le roman, Chris Krauss, avant cette vaste entreprise qu'est la fabrique des salauds, et on y vient, il y a eu pour vous un temps d'enquête, un temps de questionnement, un temps de recherche dans les archives. Jusqu'où êtes-vous allé pour connaître une part de la vérité ?
Tatsächlich hatte ich gar nicht geplant, einen Roman zu schreiben.
Je n'avais pas initialement prévu d'écrire un roman.
C'est pour ça que je disais au départ,
ce processus assez complexe qu'est l'écriture est difficile à résumer.
J'ai appris
par hasard que mon grand-père faisait partie des
Einsatzgruppen.
Je savais toujours qu'il faisait partie des SS, mais dans notre famille, les SS, c'était décrit comme quelque chose qui n'était pas l'incarnation du mal, mais finalement, c'était une unité de combat dans laquelle combattait le grand-père pendant la guerre.
Je devais rajouter quelque chose, mais je ne sais plus.
La question, c'est par quoi vous en êtes passé avant d'écrire ce roman, que vous n'aviez pas donc prémédité, comme vous venez de le raconter, par l'enquête.
C'est
complexe. Quand on commence, on oublie ce qu'on voulait dire. Mon grand-père faisait partie des Einsatzgruppen, mais c'est à ce moment-là que j'ai voulu tout savoir. Et ça, ça a mis 15 ans.
Parce que je ne voulais pas écrire le roman,
mais je voulais faire une documentation, si vous voulez, à destination de mes enfants et de ma famille, pour leur raconter ce qui était arrivé à ma famille pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et alors pourquoi le roman ?
En ce qui concerne l'histoire familiale,
j'ai joué le rôle de l'historien qui essaie de comprendre ce que le grand-père a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, c'est avéré, quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il faisait pas seulement partie des SS, mais qu'il faisait partie des services de renseignement des SS, des SD.
C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris.
Il a même travaillé pour la CIA après la guerre. Et pour ce livre que je destinais à ma famille, je n'ai pas tout compris parce qu'il y a des archives qui sont encore fermées, qu'on ne peut pas encore consulter. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, qui m'a vraiment secoué, que cette génération-là de ces membres des services secrets des SS ont continué, ont travaillé dans tous les services de renseignement de ce monde, ceux qui ont survécu à la guerre en tout cas, KGB, CIA, Secret Service, même dans les services français, ils ont tous été absorbés par d'autres services. Et c'est quelque chose que seul le roman m'a permis de créer une forme pour ça.
Oui, pourquoi est-ce pour vous aujourd'hui encore le plus sidérant, à côté du côté presque romanesque de cette deuxième vie qu'ont pu avoir ces anciens officiers nazis ? Qu'est-ce que ça a de plus sidérant ? Est-ce que c'est pour vous l'impunité finalement ? Le sentiment qu'après la fin de la guerre, après la chute d'Hitler, certains crimes sont restés quand même impunis, et on le voit à travers la trajectoire de votre héros, et on va y venir, Koja. La page, la rupture attendue ou prétendue n'a pas eu lieu.
C'est
tout à fait ça, il n'y a pas eu de rupture véritable.
Dans votre question,
vous l'avez dit, il est vrai qu'une grande partie de ces personnages ont su s'échapper, mais ils ne sont pas seulement partis, mais ils ont été absorbés, ils sont devenus une partie d'une société qui est quand même aujourd'hui un système démocratique. Alors comment est-ce que ça a pu se faire ? Ce sont des personnes qui avaient quand même soutenu, qui avaient carrément incarné un système absolument pas démocratique
et
au cours de leur carrière personnelle, ils ont réussi à co-construire aussi des États démocratiques. Comment était-ce possible ? C'était du mensonge, un mensonge envers soi-même, un mensonge envers la société, un mensonge politique. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe encore aujourd'hui, parce que c'est la base sur laquelle est fondée la République fédérale d'Allemagne encore aujourd'hui.
Voilà. Et ce personnage, votre grand-père peut-être, ce personnage aussi, Koja, qui est le narrateur et le protagoniste du roman, et qui, on le comprend, ressemble probablement un peu à votre grand-père et à ce que vous avez découvert de son passé, n'était pas le seul. Alors il y a quelques histoires qui ont percé, mais c'est vrai qu'on en a assez peu parlé. On va écouter celle d'Otto Skorzeny, lieutenant-colonel dans la SS, l'un des officiers favoris d'Hitler. Écoutez.
Otto Skorzeny est mort samedi soir. On vient seulement de l'apprendre. Skorzeny souffrait d'un cancer du poumon. Il était âgé de 67 ans. Il sera inhumé à Vienne. Il était d'origine autrichienne, ne l'oublions pas. Skorzeny, qui était venu en France il y a quelques semaines pour présenter son livre, Jacques Delarue, historien du nazisme, qui était-il cet homme? Est-ce que c'était vraiment la flamme de Hitler?
C'est un homme qui a été révélé à lui-même par le nazisme, comme beaucoup d'autres. S'il n'y avait pas eu le nazisme, il serait resté ce qu'il était, c'est-à-dire un ingénieur spécialisé dans les moteurs diesel, c'est-à-dire quelque chose de très peu brillant. Il a eu des ennuis après la guerre, il s'est constitué prisonnier le 15 mai 1945 auprès des Américains à Salzbourg. En 1947, les Américains l'ont relaxé, le tribunal américain n'ayant pas trouvé de charge suffisante contre lui, mais comme d'autres pays le recherchaient comme criminel de guerre, il est resté détenu. Et c'est en juillet 1948 que Skorzeny s'est évadé de ce camp. Il a gagné l'Espagne, après s'être dissimulé pendant un certain temps chez le chef de la police d'un petit village allemand, qui l'a hébergé discrètement. Et il est passé en Espagne, là il est devenu pendant quelque temps le conseiller en matière d'affaires spéciales de différents gouvernements du Moyen-Orient. Et ensuite, il a ouvert en 51 ou 52, Avenida José Antonio, la principale artère de Madrid, une société dite d'import-export sous le nom de Steinbauer.
Bon, il a aussi été conseiller donc du président égyptien dans les années 50, Otto Skorzeny, avant de rejoindre l'Argentine, puis le Mossad. Beaucoup d'anciens nazis, comme lui, ou comme votre personnage, se sont reconvertis dans le renseignement.
Je ne connaissais pas cet enregistrement, ça c'est quelque chose de très très intéressant. Skorzeny, c'était un ami de mon grand-père. Il apparaît un petit peu dans le livre, il est mentionné,
Quand
on regarde le destin de Skorzeny, on comprend ce qui est arrivé à la plupart de ses anciens collaborateurs des renseignements.
L'entreprise
Zeppelin, qui joue un grand rôle dans le livre, il y a participé aux côtés de mon grand-père.
Et
tout à l'heure, vous m'avez posé la question
quels
étaient mes souvenirs d'enfance de mon grand-père. Alors, il y a quelque chose que mon grand-père m'avait raconté, quelque chose dont il était très fier. Il était très fier du fait que Skorzeny l'avait sauvé, lui, pour sortir de Riga avec le dernier vol à destination de l'Allemagne.
Ça me surprend à chaque fois.
Je découvre ici, dans un studio à Paris, quelque chose qui est lié à ma famille. C'est difficile de ressentir ça de manière plus abstraite. Je me sens vraiment concernée, très concernée et subjectivement concerné. En même temps, j'essaie de refléter un petit peu l'histoire d'une manière plus objective comme un historien.
Et là, on est en 1975 quand cet historien Jacques Delarue, lui, parle et témoigne de cet Otto Skorzeny venu signer tranquillement aussi son livre dans une librairie française.
Ouais. Skorzeny war noch dazu ja millionnaire.
En plus, il était millionnaire, Skorzeny.
Multimillionnaire,
si vous voulez. Ses mémoires et ses services pour les Américains et pour les renseignements allemands, tout ça lui a procuré vraiment une grande richesse. Il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé, j'ai essayé de trouver, mais je n'ai jamais su si mon grand-père était en lien avec une organisation financée par Skorzeny, une organisation d'anciens SS.
Alors, une vie a passé entre les gouttes, on l'entend à propos de Skorzeny, mais aussi de votre grand-père, dont Koja, le protagoniste du livre, et le miroir. Une vie a passé les gouttes, on va comprendre maintenant avec vous à quel prix. Et c'est cette question-là qui est au cœur de votre fabrique des salauds, ce roman qui paraît chez Belfond, Chris Krauss. Le dispositif du livre, c'est votre protagoniste Koja, un septuagénaire, il a une balle dans le crâne, il est hospitalisé, il se raconte à son voisin de chambre, un hippie, 40 ans plus jeune que lui, et il raconte son passé. Koja, le narrateur du livre, qui ressemble donc, on l'évoquait un peu, à ce grand-père avec lequel vous avez tardivement fait connaissance, en tout cas avec la partie réelle de sa vie. Vous écrivez De mon côté, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, je devins un bon nazi. Ça, c'est Koja qui parle. Je m'en rendis même pas compte. Nombre d'entre nous en firent autant, presque à leur insu, car devenir un bon nazi était comme devenir un bon chrétien. Les bons nazis étaient une évidence. Il n'y en avait pas d'autres et les choses se faisaient d'elles-mêmes. Voilà, parce que tout au long de ce livre, Koja va se raconter à son voisin de chambre. On ne naît pas salaud, on le devient à vous lire, Chris Kraus. Les deux frères ont un grand-père pasteur, mort pour la cause. C'est Hubert qui va entraîner son frère Koja dans les rangs nazis, ou plutôt ceux de la Sicherheitsdienst, le SD, le service de sécurité fondé par Heinrich Himmler. Koja n'est pas idéologue, c'est presque, on dirait, un salaud consentant, contrairement à son frère Hubert. Leur point commun, c'est peut-être qu'ils ont tous les deux, et vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, ils sont tous les deux coupables, et tous les deux, jusqu'au bout, incapables de reconnaître leur culpabilité.
Ja, das ist richtig. Ich habe sozusagen die beiden C'est Möglichkeiten exact. Zu überleben als Täter im
On peut survivre en tant que aufgeteilt auf zwei Kriminellen, si vous voulez, dans sous le national-socialisme, et je l'ai décrit à l'exemple de deux personnages.
On a Hubert,
le frère, qui est l'idéologue, qui ne change pas vraiment, qui n'est pas très sympathique, hein, il est le moins sympathique des deux frères, en tout cas en apparence. Et puis, il y a l'autre personnage, lumineux, joyeux et très ambitieux finalement en matière artistique, son frère qui est plutôt quelqu'un qui suit, hein, c'est quelqu'un à qui on peut plus facilement s'identifier.
Ces stratégies,
c'est Koja qui nous les livre,
ces
stratégies pour justifier finalement ces actes.
Et
j'ai toujours trouvé que ce qui est plus monstrueux, c'est finalement le personnage de Koja qui trouve toujours une bonne raison pour justifier les mauvais actes. C'est quelque chose de profondément humain, je pense, que notamment en rétrospective, on a tendance à se justifier très facilement pour ce qu'on fait.
Donc on pense de manière rétroactive, si vous voulez.
Et finalement, on comprend que c'est totalement paradoxe, parce que là, on a des personnages qui ont tué des centaines de personnes. Et moi, ce qui m'a intéressé toujours, c'est pourquoi, de savoir pourquoi mon grand-père n'a jamais eu cette réflexion. Et pourquoi il n'a jamais dit « j'ai commis des choses, je suis coupable ».
Il est vrai que cette figure, ce personnage,
permet au lecteur d'être aussi bouleversé que je l'étais moi. Chris, parce que j'avais appris à propos de mon grand-père. Parce que c'est quelque chose qui est, comme je disais, profondément humain.
Voilà, le hippie du livre qui est le témoin de ce récit, c'est vous, un peu. Hein, non, c'est pas. Non, mais vous êtes obligé vous-même d'entendre cette histoire, hein, que vous ne soupçonniez pas. Et le lecteur est aussi, comme vous, peut-être, aussi, le hippie, obligé de poursuivre sa lecture, d'écouter ce récit, dans l'espoir d'une rédemption, d'un aveu de culpabilité de Koja, d'une demande de pardon qui n'arrivera jamais.
Das ist ein großes Kompliment, dass Sie das glauben.
Que vous croyez ça, c'est un compliment pour moi. J'aimerais bien être le hippie. Je pense que je suis plutôt un mélange entre la perspective de la victime et du bourreau, ou la perspective du lecteur,
que
le lecteur s'identifie, j'espère en tout cas, il s'identifie au bien.
Il
est vrai que le livre est très épais, au grand désespoir de mon éditeur,
et
il est vrai qu'il propose une telle quantité d'histoires qu'il fallait trouver quelque chose sur quoi se focaliser pour écrire ou pour expliquer cette histoire. Donc c'est une sorte de dialogue platonique entre le bien et le mal. Le bien, c'est le hippie, et le mal est représenté par Koja.
Alors sur cette question de la culpabilité, je vous propose d'écouter les mots du philosophe allemand Peter Sloterdijk. On était tous coupables, deux fois coupables. Lui, il est né en 1947. Il avait l'âge aussi de votre hippie en 1970.
On était deux fois coupables. D'abord, on avait assisté à des choses atroces, même si on ne les avait pas commis par ses propres mains. Et après, double culpabilité. On voulait repartir à zéro, comme si rien ne s'était passé. Alors, coupable de ce qui a été, coupable de la volonté d'oubli. Et ça a créé cette atmosphère très bizarre qui a pesé sur le pays allemand jusqu'au milieu des années 60. Là, il y avait une sorte de coupure psychopolitique. Il y avait la nouvelle génération qui a formellement ouvert le procès de reconstruction et qui commençait systématiquement à interroger les vieux. Et comme les réponses n'étaient pas satisfaisantes, on allait directement dans les archives, on a fait des recherches historiques, et le dossier de l'accusation a grossi énormément.
Vous êtes d'accord avec lui ?
Ich bin nicht absolut einverstanden.
Pas tout à fait d'accord avec lui.
Natürlich hat Sloterdijk hier das Offensichtliche beschrieben.
Il a décrit ce qui est évident, bien sûr.
Es gab in Deutschland zwischen 1945 und 1959
ein absolutes Negieren der Schuld. Danach
kam es zum Bruch.
On a refusé cette culpabilité. Ensuite, il y a eu cette coupure par la génération 68.
Verrückterweise habe ich auch durch die Recherchen, auch durch neue Fachbücher von Sozialwissenschaftlern, wie beispielsweise Harald Welzer, herausbekommen, dass selbst diese 68er Generation gewisse Brüche nicht gemacht hat. Also die Generation von Sloterdijk selbst hat beispielsweise herausbekommen und das auch vertreten, es gab schreckliche Nazis, auch in der Bundesrepublik, die haben furchtbare Taten begangen, für die die einstehen müssen, aber das wurde nie
pour lesquels ils doivent répondre, mais ils n'ont jamais ramené ça dans leur propre famille. Ce qui veut dire que même cette génération 68 a souvent parlé de ces choses-là, a attaqué le fascisme, si vous voulez, de manière abstraite, mais n'ont jamais posé la question de savoir ce qu'a fait Papy pendant cette époque-là. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord. Il n'y a pas quelque chose de complètement nouveau qui est apparu avec les 68-tards. En réalité, il y a des continuités. Dans la fabrique des salons, on parle de ces continuités, cette absence de rupture jusqu'à aujourd'hui. En 1974, j'aurais pas été obligée de terminer le roman ou de le faire terminer en 1974, mais je voulais ce hippie, ce personnage antagoniste de Koya, j'ai trouvé ça idéal, alors j'ai choisi cette époque-là. Cette époque où ces hippies et leur naïveté étaient vraiment d'actualité.
La naïveté du peace and love. Vous parliez de ces papis, alors de ces grands-pères qu'on n'avait pas, qui n'ont jamais eu aussi à répondre de ces actes, parce que cette génération-là n'a pas parlé à son tour. Est-ce que votre grand-père a vécu assez longtemps pour être confronté à ce que vous aviez découvert?
Mein Großvater ist 1989 gestorben.
Il y a la version officieuse de sa vie que j'ai découverte en 2000.
Und wie ich auch eingangs sagte, es war verboten.
Et comme je l'ai dit aussi, c'était un interdit. C'était quelque chose, c'était une loi dans la famille qu'on ne lui parlerait pas de ce qu'il avait fait pendant le national-socialisme.
Ce qui était surprenant pour moi, pendant mes recherches,
c'est que la deuxième génération, mon père par exemple, savait beaucoup de choses,
mais
parce qu'ils avaient ce besoin de loi. Loyauté envers leurs parents, ils n'ont pas transmis, ils n'en ont pas parlé. Donc c'est là qu'a commencé le mensonge, et pas que dans ma famille, mais dans de nombreuses familles allemandes. C'est pour ça que je pense que ce fait de se taire a créé des structures qui sont encore vivantes dans un sens, même aujourd'hui, même dans la génération de mes enfants.
C'est
sous cet aspect-là, je pense que ce roman que j'ai écrit est vraiment quelque chose de politique aussi, pas seulement lyrique.
Là où vous êtes, vous, peut-être aujourd'hui, Chris Krauss, vous vous sentez exempté de ce besoin de loyauté que vous venez d'évoquer. Il serait en face de vous aujourd'hui, ce grand-père. Quelles questions vous lui poseriez ?
Das ist sehr hypothetisch und greift auch sehr stark in eine sehr besondere Familiensituation ein. Ich habe nur die Freiheit
hypothétique,
gehabt.
Hypothétique, il faut voir ça dans le contexte de la famille spécifique. La liberté que j'avais, c'était de faire mes recherches de la façon que je voulais, tant que la situation de ma famille me l'a permis. Je n'ai plus de contact avec mon père ni avec ma mère. Ça donne, c'est douloureux, mais ça vous donne la liberté de faire des choses différemment. Autrement que l'on fait, peuvent le faire mes frères et sœurs ou mes cousins, cousines. C'est une question qui m'occupe depuis des années. En fin de compte, on ne sait pas. Je le saurais uniquement si j'étais face à lui et ça n'arrivera plus.
Sous le Troisième Reich, la préfecture où il travaille, Koya, votre protagoniste, est le théâtre des plus odieux et des plus abominables crimes. Vous l'écrivez. Alors pourquoi là, déjà, ne réagit-il pas devant l'horreur? Parce qu'on parle de culpabilité, mais la question se pose aussi de la réaction au moment où ces faits sont commis. Comment vous l'expliquez aujourd'hui, Chris Kraus?
Das kann man eben nicht erklären.
On peut pas l'expliquer,
aber,
justement.
Das Buch ist schon so gebaut, dass ich hoffe, dass der Leser glaubt,
j'ai construit
in jeder schrecklichen
le livre de manière à ce que le lecteur comprenne ou ait l'impression de comprendre pourquoi le protagoniste agit de telle ou telle manière.
Ebenso wie meine Familiengeschichte auch sehr, sehr früh angefangen.
C'est pour ça que je commence à une époque vraiment bien avant l'époque nazie d'ailleurs. On commence en 1905. Ça commence avec le lynchage du grand-père par des socialistes et par les traumatismes que ça déclenche au sein de la famille. Une haine vraiment qui haine du socialisme qui est implantée dans cette famille.
Immer hinein.
Donc und tout das ça, ist ja ça auch fait partie de, du comportement après. Il y a aussi l'histoire d'amour. Et il est vrai que Koya est capable d'aimer. Donc je me suis servi de cet amour pour que l'on comprenne
der Charakter handelt,
pourquoi le personnage agit de telle ou telle manière à un moment donné. Par exemple, pour protéger une personne aimée.
Mais ça ne veut pas dire que dans la somme de la nicht reflektieren,
ça veut pas dire
qu'on
ne comprend pas que finalement
aber
on s'est rendu coupable.
Mais
häufig. Pour la génération de ces bourreaux, c'était
das
souvent le cas.
Unbedingt
et j'ai vraiment voulu creuser cet aspect-là.
War,
comment est-ce que ça a été possible? J'ai pas trouvé de réponse.
Ja auch,
je n'ai pas trouvé de réponse
verraten,
et c'est pour cela que le livre se termine. Je ne voudrais pas trop vous dire, mais ça se termine sur un conflit entre le mal et le bien, parce que le hippie veut montrer que fait partie du mal aussi, mais je vais pas vous dire comment ça se termine.
France Culture avec notre invité, l'écrivain et réalisateur allemand Chris Kraus, à l'occasion de la parution de son roman La Fabrique des Salauds.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Avec vous pour ce roman La Fabrique des Salauds dont vous nous parlez, la genèse de ce livre et aussi le projet que vous en aviez, Chris Kraus, roman paru chez Belfond. Il y a la question de la responsabilité des actes qu'on évoquait. Tout semble être un concours de circonstances dans la vie de Koja, ce personnage. Plusieurs allégeances en même temps. Par la suite, après la guerre et la chute d'Hitler, capturé par les Russes, il va s'en sortir en devenant agent de liaison au service de l'Union soviétique, KGB, CIA, services secrets allemands et même le Mossad. Tout ça semble un peu extravagant, mais vous le disiez en ouverture de cette discussion, tout ça a aussi réellement existé et on le voyait avec cet ancien officier Otto Skorzeny qui a croisé et connu votre grand-père. C'est un personnage filant, ce Koja, sans identité fixe. Dans mon métier, écrivez-vous, on change de nom comme de pneus. Il y a des noms divers, des noms d'été, des noms de substitution. Il y a des noms rapiécés et des noms crevés. Et bien sûr, des accidents de nom qui peuvent être fatal. Tous ces changements d'identité qui lui ont permis d'avancer à travers le siècle à visage presque caché. À ce niveau-là de l'explication, Chris Kraus, on a envie de vous demander quelle est votre définition aujourd'hui du salaud?
Nein, das ist Verrückte ist ja, dass das Böse immer in einem neuen Gewand erscheint.
En fait, à chaque fois que le mal apparaît, c'est sous une nouvelle apparition, une nouvelle forme.
Und der menschliche Makel ändert sich ja nicht, den kriegen wir ja nicht raus aus
et
unserer
on
Natur.
On reste profondément humain, on ne peut pas quitter, on ne peut pas s'échapper. Quand tu as dit quelque chose, l'humain est un bois tout tordu et c'est quelque chose qu'on ne peut pas abandonner, il faut toujours travailler là-dessus,
que le côté die Verarbeitung unserer Familiengeschichte, was nicht bedeutet, dass ich ein besserer Mensch bin als alle anderen aus meiner Familie, aber das Abarbeiten dessen, was geschehen ist, um Dinge in der Zukunft zu vermeiden, ist ein allererster Schritt,
um das Böse in der eigenen Familie zu vermeiden. Mehr ist das zu versuchen, kann man nicht und kann auch ich nicht.
C'est un roman quand même de la lâcheté et du mensonge aussi, La Fabrique des Salauds, Chris Krauss. Le roman enfin d'une époque, le XXe siècle. Quelle vérité la littérature peut faire émerger pour vous aujourd'hui?
Ja, wenn ich das wüsste. Es war
si seulement je le savais.
So, dass ich eben die Wahrheit durch die historische Arbeit in meiner
j'ai fait un travail d'historien sur la biographie de ma famille et je n'ai pas trouvé la vérité en faisant ça.
Natürlich auch immer ein Rest des Unerklärlichen.
Il y a toujours quelque chose qui demeure, qui n'est pas, qu'on ne peut pas expliquer.
Auch nur ahnen,
et même la littérature ne peut que soupçonner quelle est la vérité. Il y a des choses qui nous fuient, parce que la vérité, c'est vraiment l'auteur qui la définit. C'est déjà un mensonge, en fait, finalement, parce que c'est l'auteur qui stipule telle est la vérité. C'est pourtant sa perspective subjective, c'est sa vision du monde. La mienne n'est pas la même que la vôtre, ne serait-ce que parce qu'on est face à face. Vérité, c'est quelque chose de très subjectif. Ça, c'est tragique.
Si le cœur de la machine relève d'une succession ou d'une addition de responsabilités individuelles, il y a aussi la question de la responsabilité collective que vous soulevez à travers ce roman, celle d'un pays. Vous montrez que la fabrique ne s'est pas arrêtée donc avec la guerre et le nazisme. Elle va se poursuivre après. L'après-guerre n'est pas cette page qui se tourne. Elle n'est pas cette rupture. Elle est à peine un changement de décor. Un de vos personnages, magnanime, dit à un moment, plaide pour une perte d'équilibre du monde entier, de la morale, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Tout va à volo, dit Gehlen. Vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est comme ça que vous regardez aujourd'hui ce XXe siècle. Un siècle où toutes les valeurs, tous les repères ont été inversés.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube ja, das ist auch eine ganz starke,
non, je ne pense pas.
Ein ganz starker Einsatz für eine offene Gesellschaft, an die ich glaube. Das aktuelle
je crois vraiment
Buch
en
hat sicherlich
une société ouverte qui a été créée
daran, dass,
aussi.
Dieses Buch auch den Bruch von
ce livre, mon livre, décrit aussi la rupture
zeigt.
Entre une société totalitaire et une société pardon, ouverte. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau à un moment où des choses changent, nos sociétés occidentales menacent de devenir totalitaires. Ce populisme de droite, l'extrême droite, elle se renforce en France et en Allemagne aussi.
Soll verhindert werden, unter anderem auch
il
durch
faut
diese
l'éviter.
Sicherlich ist das
et ce type de livre, je pense, peut y contribuer. Et ça, c'est peut-être la motivation politique pour laquelle je l'ai écrit.
Vous parlez de ce roman et de ce que la littérature peut aussi pour raconter ce siècle passé, cette histoire que vous avez dévoilée. J'ai lu ici ou là que vous pensiez peut-être en faire une suite ou un film ou une série.
Es ist so, dass das Buch tatsächlich entstanden ist als Vorlage für eine Serie.
Il est vrai que le livre au début était là pour devenir une série. C'était ça l'idée de départ.
Dass eine Verlegerin in Deutschland
et
dieses Manuskript in die Hand genommen hat.
Quasiment le hasard qu'une éditrice allemande ait pris en main et elle m'a dit on va en faire un roman. Mais je ne sais pas si ça va devenir une série. Je suis moi-même metteur en scène.
Et
en Allemagne, on a beaucoup discuté. Ce livre.
Sender Angst bekommen, et weil das ja zu Diskussionen führt, wie geht man eben mit dieser Tatsache dass man Täter, die Schreckliches tun, nicht schrecklich erscheinen.
Des Sessions qui ont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour montrer quelqu'un qui est très coupable? Comment montrer ces gens-là qui sont couverts de culpabilité? Mais j'aimerais bien en faire une série, mais je ne sais pas trop.
Voilà, parce que le récit est déjà à la limite du supportable parfois pour le lecteur, alors à l'image, ça peut être encore autre chose. Mais c'est un livre qu'il vous fallait écrire et que vous mettez aujourd'hui en partage, cette histoire qui nous concerne tous, ce roman, La Fabrique des Salauds, et de vous, Chris Krauss, et il paraît donc chez Belfond. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à votre interprète traductrice, Louise Degenhardt, pour cette traduction en direct. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, Maya Leskovic et Laura Dutèche-Pérez, Oriane Delacroix et Henri Leblanc. À la réalisation aujourd'hui, c'était Jean-Frédéric avec Morgane Danan. À la réalisation, c'était Éric Lancien, avec Jean-Frédéric à la technique, Morgane Danan à la vidéo. Un grand merci aussi à François Bréus. Très bel après-midi sur France Culture.